Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode du vlog du comics dans lequel on continue la trame Inferno numéro 3. Que premièrement, on va analyser un peu la couverture alors que deux Nimrod se battent avec Magneto puis Charles Xavier. Si vous n'avez pas encore vu Inferno 1 puis 2, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien en bas parce que Inferno, c'est l'apogée de tout ce qui pourrait mal aller à Krakoa qui va mal en même temps. La BD commence avec un recap de Charles Xavier qui montre ses plans à Cypher parce que Cypher est le seul qui peut parler efficacement avec Krakoa et donc développer pratiquement l'île à lui tout seul. Donc ce recap-là vient directement de Power Affix ou House Affix et une des tâches de Cypher était de faire l'interface de toute la technologie qui allait être utilisée sur Krakoa pour être capable de parler de Krakoa l'île à Krakoa, les machines et les habitations qui sont sur Krakoa. Vous comprenez? Comme dans toute bonne BD Inferno, on a toujours un petit moment de plus dans la backstory qu'on n'a pas eu la chance de voir dans House of X et Power of X. Dans celle-ci, c'est que Cypher, à la fin de sa conversation avec Charles Xavier, a actuellement eu une conversation avec Warlock, dans laquelle il demande « Est-ce que tu fais confiance à Charles? » Et Warlock lui dit « Non. L'expérience nous dit qu'on ne devrait pas lui faire confiance. » Ce que Cypher dit « Mon cœur aimerait dire oui, mais ma tête dit non. » Mais que peu importe, il allait accomplir son travail demandé, mais qu'il allait toujours questionner un peu les motifs de Charles. Et les flashbacks de Cypher finissent avec une petite conversation entre lui et Krakoa. La forme de Krakoa représente, c'est une face qui sort dans un arbre et qui prend la peine de parler avec Cypher. Warlock est là et les deux demandent enfin à Krakoa « Comment tu te sens à propos d'avoir plein de mutants qui vivent sur toi? » Parce que je pense que c'est la première chose qu'on doit te demander parce qu'on va être pas mal. Tout de suite après le flashback de Cypher et de Krakoa, on tombe à un moment où Charles Xavier a rapporté les Kaku dans les premiers résurrectés. Les Kaku, c'est toutes des clones d'Emma Frost, alors qu'Emma Frost était capturée par le Weapon X Program. Le Weapon X Program a pris 1000 ovules à Emma Frost et a tenté de reproduire une armée de mutants identiques qui auraient les mêmes pouvoirs télépathiques qu'Emma Frost, et les cinq sont un peu reliés dans une forme de web télépathique qui les amplifie. Et quand ils sont ensemble, ils sont vraiment forts, et s'ils émettent un peu partout sa planète, ils sont pratiquement capables de couvrir toute la planète par leur force télépathique. Par la suite, on voit un autre flashback qui serait encore un mois plus tard, mais celui-ci est très important parce que c'est Cypher qui s'est rendu compte que lorsque Krakoa commençait à avoir plus de mutants qui vivaient sur lui, parce que Krakoa se nourrit de l'énergie mutant, c'est comme ça qu'il reste en vie, donc plus qu'il y a de personnes sur lui, plus qu'il peut se nourrir sans faire mal à personne, puis plus qu'il peut être en forme, comme il commençait à se nourrir par tellement de monde, il a commencé à pousser des fleurs sur lui qu'il n'y avait pas avant. Cypher a commencé à étudier ses plantes, puis a réalisé qu'une des plantes était la plante Habitat. Une fois plantée dans le sol, elle prend la forme d'un habitat dans lequel vous avez pensé, très pratique pour créer une ville excessivement rapidement. Et il dit à Charles et Magneto qu'il a réglé aussi un deuxième problème parce qu'il s'est rendu compte qu'une des fleurs permettait de créer les Gateway Portals qu'on utilise depuis House of X et Power of X et qui permettent aux mutants de se déplacer n'importe où sur la planète dans lequel on a déjà rejoint une autre de ces plantes-là. Donc, si on va dans tous les pays en planter une, on a accès à tous les pays. Si on en fait une sur la Lune et qu'on fait une base autour, on peut se téléporter sur la Lune. Il n'y a pas de limite à ce qu'on sache pour le moment à ce moyen de téléportation. 4 mois plus tard, on a une conversation entre Beast et Cypher dans laquelle Cypher a découvert 3 nouvelles plantes. Et la conversation avec Beast, c'est que Beast lui a demandé de suivre des indications particulières et que Cypher les a suivies à la lettre. Cypher termine la conversation en parlant que lui et Sage, Sage qui s'occupe de la X-Force, entre autres qui est un peu comme la CIA/FBI des mutants, elle s'occupe beaucoup de la technologie avec Cypher et il essaie de programmer le gateway de façon à être capable de bloquer ceux qui ont besoin de bloquer et de programmer exactement toutes les portes au moment nécessaire ou de faire des demandes d'acceptation ou de refus quand quelqu'un essaie de rentrer sur Krakoa. Une des choses importantes qu'on a vues au travers les flashbacks de Cypher, c'est que lui et Warlock a un procédé dans lequel il rentre dans Krakoa. Il essaie de répandre un peu de ses particules au travers toute la terre de l'île pour essayer d'être un peu un nervous system, un système nerveux pour Krakoa lui-même, une autre couche de protection. On voit ensuite que Cypher a la main sur la fleur Habitat, mais l'Habitat qui est capable d'être déconnecté. Celle qu'on a entre autres vu Solem, un des ennemis à Wolverine, créé au bout de l'île et qui crée des pockets un peu sur Krakoa dans lequel aucune technologie de Krakoa a accès et dans lequel Krakoa lui-même, en théorie, n'y aurait pas accès. Par contre, Warlock y a accès, et ça va être un petit secret que Warlock et Cypher vont garder pour eux. Les flashbacks de Cypher continuent avec Two Days Ago et un petit moment de Moira qui est encore dans sa base, cachée tout seule. Évidemment, Moira qui pense à Mystique et Destiny, c'est un segue pour nous apporter à notre chère couple préférée, Devil, je pense que c'est mes préférés méchants mutants de tout l'univers de Marvel. Et les deux mentionnent Okaku qui sont là pour voir la White Queen en personne, Emma Frost. Destiny n'avait jamais rencontré les Okaku, donc Mystique lui rappelle que c'est 5 Mutants in One, c'est 5 personnes qui agissent ensemble pour avoir les pouvoirs d'une seule personne, un seul circuit beaucoup plus fort que s'ils étaient 5 personnes individuelles. Récemment, les Sisters ont beaucoup travaillé à essayer de tester leur individualité. Est-ce que c'est quelque chose qui leur plaisait? Puis sont venus à la conclusion que non. Il y a même une petite altercation entre eux et Destiny. Destiny dit « Est-ce que tu sais qui je suis? » Et elle ne fait que leur révéler que seulement 2 d'entre elles vont trouver l'amour. 3 ne le trouveront jamais. Une sera changée pour toujours, séparée des 5 dans l'autre monde. Et une de vous ne pourra jamais s'en remettre. Ce que moi j'ai trouvé drôle, c'est qu'une des Okaku allait essayer de brag about que c'était impossible de faire la différence entre une d'elles. C'est pour ça qu'une allait toujours rotate pour porter un habit noir pour que le monde soit capable de faire un peu de différence entre celle qui allait prendre le lead pour cette journée-là et les autres. Destiny ne fait que leur dire qu'elle ne peut pas dévoiler lesquelles d'entre elles allaient vivre quelle de ses destinées parce qu'évidemment elle n'était pas capable de faire la différence. Pourquoi le meeting est très important, c'est parce que Emma Frost révèle enfin à Mystique et Destiny que lorsqu'elle est allée voir Charles Xavier et Magneto après le vote, parce que les deux étaient vraiment pisse contre elle, elle a appris l'existence de quelqu'un, Moira MacTaggert. Dans la discussion, il n'y a pas juste que Moira est encore en vie, il y a évidemment que Moira est une mutante et qu'elle a travaillé avec Charles et Magneto dans le secret de Krakoa, et ça depuis le début. Emma termine la conversation, du moins avec son style comme d'habitude, en disant qu'elle trouve qu'elle a quand même bien handled la situation comparée à ces deux-là la première fois. Et les deux sont comme « je comprends pas trop ce que tu veux en venir », donc elle projette l'image. L'image de Pyro dans la troisième vie de Moira, qui a tout simplement carbonisé Moira jusqu'à la mort. Et Destiny Shook enlève son masque et comme « oh shit, je réalise que dans le monde, il y a un cercle de ténèbres. Si je me concentre vraiment dans ce trou de ténèbres-là, je vois Moira, puis elle est complètement terrifiée de mon existence. » Mystique pense tout de suite à une vision, mais Emma Frost révèle un des derniers secrets de Krakoa, que tout cela était une des anciennes vies de Moira. Et donc Emma Frost laisse tomber la dernière bombe, que le pouvoir de Moira est en fait celui de détruire toutes les autres personnes sur Terre, parce que dès qu'elle meurt, tout recommence à zéro. À tout moment, elle peut disparaître et tout ce que vous avez travaillé pour, Krakoa, toutes les idéologies, tout ce que vous avez fait dans votre vie, les gens que vous avez aimés, disparaissent et on doit tout recommencer. La conclusion de Mystique sur le sujet, c'est que Magneto et Charles doivent être stop à tout prix et qu'on doit trouver une façon de se débarrasser de Moira sans qu'on recommence tout à zéro. Alors que Mystique et Destiny s'en vont pour partir, Emma Frost leur dit qu'elle ne se mêlera pas de cette bataille et Destiny termine en disant « mais t'as des cadeaux pour nous, non? » Un petit regard, et on passe à une autre scène. Un jour plus tard, Moira est dans sa safe house à Paris. Elle sort et commence à se promener. Et elle se fait encercler par une armée. Quelques instants plus tard, dans le House of M, qui est la maison de Magneto, on voit Magneto très pensif dans ses habits noirs, puis on sait que quand il est dans ses habits noirs, shit will go down. Charles puis Magneto ont un meeting. Magneto est honnête et dit qu'il y a toujours encore un peu la voix dans sa tête qui lui dit que c'est soit lui ou les humains, qu'à quelque part, il va toujours falloir les exterminer un moment donné. Mais que cette voix-là commence à fade out, commence à s'évanouir jusqu'à devenir un petit murmure qui n'entend presque plus. Les deux commencent à trouver que leurs méthodes d'action sont un peu trop extrémistes à leur goût, mais que Mystique et Destiny commencent à être incontrôlables, qu'ils doivent faire tomber leur forme de justice qu'eux croient juste sur eux, s'en débarrasser, que ça sera la dernière fois, et qu'enfin, on va pouvoir passer à autre chose. Mais Magneto termine la conversation en disant à Charles, on l'a plus le contrôle, par contre, tu le sais, hein? T'as vu comment Emma nous a regardés? Emma va probablement le dire à tout le monde. À partir de maintenant, les choses vont aller bad. Alors qu'ils terminent leur conversation, Charles a une image mentale de Moira en train de souffrir et se rend compte du problème que ça cause. Magneto scanne le tout et détecte la position de Moira, Terra Verde. Terra Verde est un groupe slash population qui est un peu des plantes qui vivent en symbiotique avec des humains. Et ils ont eu un conflit avec les mutants à peu près dans les débuts de la trame krakoesque. Un peu à cause de Beast, je dirais. Et ce conflit a augmenté au point où ils ont décidé d'attaquer Moira, on dirait. Orkis ont aussi une forge, tout proche du soleil, comme vous pouvez voir. Et cette forge travaille à créer des Nimrods et à améliorer Nimrods constamment pour lorsque l'humanité décide de wipe tous les mutants, mais on peut le faire efficacement et sans trop de counter-attaque possible de la part des mutants. Donc, un des travaux que la forge d'Orkis essaie de faire avec cette grosse tête, c'est de recréer Mother Mold. Si vous écoutez les analyses de Geek, vous savez que Mother Mold, c'est un sentinelle qui pond des sentinelles. C'est un sentinelle qui construit toujours dans lui plein d'autres sentinelles. C'est quoi un sentinelle? C'est les robots OP que vous voyez dans X-Men des fois que leur job, c'est juste de péter la gueule aux mutants. Dans la dernière BD d'Inferno, une des techs proches de Nimrod semblait avoir dévoilé un secret. Et donc, Nimrod continue à pousser pour essayer d'avoir plus d'informations. On apprend donc, dans cette partie, que le nouvel allié de Nimrod n'est ni d'ici et ni de cette période dans le temps, mais qu'elle est plutôt du Mutant Hell. L'associé lui révèle aussi que le Once Human Host dans lequel elle est présentement a atteint l'Omega Synthesis dans le futur, mais qu'elle décide de revenir à ce moment-là pour essayer de faire gagner Nimrod, parce que dans le futur dans lequel elle est, les mutants gagnent toujours. Parce que ce que Nimrod n'est pas capable de calculer, c'est que d'autres ennemis de Krakoa, les, entre autres, Children of the Vault, la Post-Humanity, devraient sortir de leur vault. Et que dans la trame du futur dans lequel elle vient, lorsque les Children of the Vault ont décidé d'attaquer, ils ont dû séparer leurs forces pour attaquer d'une partie les humains et de l'autre partie les mutants, et que les mutants se sont servis de ça pour prendre complètement possession du monde et de gagner cette guerre-là sur trois fronts. Les humains ont tenté de créer Nimrod et Nimrod a été créé un an plus tard que ce qu'il a été créé dans notre trame à nous qu'on suit présentement. Mais que malheureusement, cette version un peu faite à la va-vite de quelqu'un qui n'a pas eu le temps de le faire et qui a décidé de juste le faire quand les mutants ont eu le contrôle de la Terre, avait décidé de renvoyer un Nimrod qui n'était pas encore assez près dans le passé et ce Nimrod-là a échoué. Ce qu'elle nous révèle aussi, c'est que lorsque les mutants ont fini par conquérir un peu tout, qu'ils ont fini par vaincre Nimrod, tout ce qui restait aux machines et aux humains, c'est le dieu des machines, le célestial qui les représente. Mais les mutants ont fini par mettre la main sur assez d'équipements, assez de force, et même en s'alliant avec quelques autres célestials, ainsi que Phoenix Blade, qui est une arme avec la force Phoenix, qui se retrouvait dans Jean Grey, entre autres, que vous pouvez voir dans les premiers films de Sony X-Men. Et avec les pouvoirs des célestials, des mutants amplifiés et de la Phoenix Blade, ils ont été capables de détruire complètement tous les célestials qui s'opposaient à eux. Et les mutants, dans le monde dans lequel elle vient, ont réussi à éliminer complètement l'évolution technologique et mettre fin au monde des machines, au futur des machines, forever. À la fin de cette timeline se trouvait le Trickster Titan, qui a réussi à renvoyer cette Omega Synthesis entre un humain et une machine au travers un black hole, au travers le temps, et le renvoyer un peu contaminé, de façon à changer le futur à son avantage. Elle s'est donc servie d'être envoyée dans le passé pour trouver un humain scientifique beaucoup plus tôt et commencer l'Orkis programme à un âge dans lequel les mutants ne seraient pas capables de réagir. Donc alors qu'on termine un peu les informations que nous donne le nouvel associé de Nimrod, on a une alerte de Terra Verde qui nous avertit que les mutants retaliate et essaient de sauver Moira. Et l'alerte est lancée directement à Nimrod comme les deux, Terra Verde et Orkis, sont devenus de très bons alliés. On termine l'alerte et on arrive directement avec Magneto et Charles qui attaquent Terra Verde. Charles est inquiet de l'état de Moira, mais Magneto lui rappelle que si Moira était déjà morte, rien n'existerait. Donc quoi? Hein? C'est facile. Tant qu'on peut continuer à aller vers elle, elle n'est pas morte. Sinon, on ne le saurait pas. On ferait d'autres choses. On serait chez nous en train de prendre un café il y a genre 30 ans. Lorsqu'il rentre dans la base de Terra Verde, voici le carnage. Magneto scanne et détecte que Moira est beaucoup plus bas dans la base. Alors qu'il continue à marcher vers Moira, on a Destiny et Mystique qui sont en train de parler, en essayant de se faire comprendre que jamais Charles et Eric vont arriver à temps. Et malheureusement, Charles et Magneto arrivent dans la salle trop tard, et sur le banc se retrouve un bras à Moira, coupé tellement clean que Moira n'est pas morte. Parce que Destiny et Mystique se sont mis dans la tête qu'ils vont la faire souffrir et la torturer encore et encore, et s'arranger pour que les deux leaders de Krakoa puissent jamais la trouver. Les deux viennent pour partir, mais la machine s'active. De l'énergie s'accumule dans la pièce et un portail s'ouvre, laissant place à Nimrod et son armée. C'est la dernière scène de Inferno numéro 3. Charles Xavier et Magneto sont pris dans une trap dans laquelle ils sont face à face à Nimrod. Ils vont probablement encore mourir puis se faire envoyer dans la liste de résurrection. Mystique et Destiny possèdent Moira. Moira est en très mauvaise posture. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer pour Krakoa parce que pour l'instant, ce pays-là va tellement mal. Merci à tous d'avoir écouté et on se revoit dans une prochaine vidéo du Vlog du Comics.